Bon. Et qui, je parle ou c'est un monologue
Je vous préviens. Oui. Moi, il faut plutôt me couper la parole le contraire.
Mais j'ai discuté 4 minutes avec vous. J'ai très, très bien aperçu cette chose immédiatement.
Et vous qui avez été prof, c'était toujours la critique majeure. Bavarde trop en classe.
Oui, mais moi aussi. Alors, on va voir. Est-ce que je peux quand même d'abord présenter des excuses et au public et à Marcel Hamon, parce que comme vous vous en apercevez, j'ai un problème de corde vocale, ce qui est extrêmement fâcheux pour les chanteurs, ce qui est ennuyeux pour les professeurs, mais les professeurs à la retraite, après tout, c'est beaucoup moins ennuyeux. Mais c'est fâcheux pour les modérateur, puisque je suis censé vous modérer.
Vous êtes un modérateur qui a une voix, ce petit côté enroulé, ça vous donne une voix de bluesman.
Ah, oui. Formidable.
Vous faites très Nouvelle-Orléans.
Vous alliez me dire Delphine Seyré ou quelqu'un comme ça, un bluesman. Un peu Aznavour aussi, dont vous venez de parler. Un peu Aznavour. Alors, nous allons discuter tous les deux de ce livre qui s'appelle « Lettres à des amis ». Je suppose que l'article « des », c'est pour ne pas mettre à « mes amis », parce qu'ils n'y sont pas tous.
Nelson Mandela, que j'admire tellement, je ne pouvais pas me résister au devoir. Quand on écrit des lettres, il faut en envoyer une à des gens pareils. Mais je ne sais pas un ami.
Voilà. Donc à certains amis et à d'autres. Voilà. Et il y en a qui n'y sont pas non plus.
Puis-je, monsieur le professeur, principal, puis-je me permettre de faire une petite réflexion préambulatoire? On me demande souvent, est-ce que vous chantez toujours? Oui, c'est mon métier. Je ne suis pas devenu écrivain. Non, pas du tout. Il se trouve que depuis l'école primaire, j'écrivais des poèmes, etc. De temps en temps, on lisait mes rédactions à l'école. Bon. Mais je suis chanteur, j'étais chanteur, je reste, je continue à chanter. Mais l'une de mes joies sans mélange, c'est l'écriture. C'est mon 8e livre. Le premier était Au Seuil et s'appelait Une chanson. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une chanson? Bon, voilà. Ça.
Titre qui avait quelques rapports avec Charles Trenet.
Exact, Une noix. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Bon, alors donc, quand j'ai une idée, j'ai quelques amis éditeurs et quelques amis écrivains, proches des écrivains, j'en connais pas mal. C'est surtout proche de Claude Duntong, qui nous a quittés il y a 2 ans maintenant. Cavana, à sa façon, qui était un écrivain, mais un vrai, avec un style un peu célinien. Oui. Et puis, là, je suis très copain avec Paul Fournel. Paul Fournel n'est pas un auteur de best-seller, mais il est très apprécié par les gens qui aiment lire. Voilà. Ce sont ces gens qui m'ont incité à écrire et à persévérer. Alors, je n'ai pas rien ne défraie la chronique au point que j'en fasse un bouquin. Mais quand j'ai une petite idée et qu'elle séduit mon éditeur, ben voilà, nous publions. Les préambules sont terminés.
Alors, les préambules anticipent sur les premières questions que j'allais poser, donc ça va très bien. Et, 8e livre, dites-vous. Et, le premier, vous avez donné son titre. Qu'y a-t-il une chanson? Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une chanson? En effet, c'est inspiré par une chanson bien connue de Trenet. Et vous avez été très content, quand ce premier livre est paru, d'être invité à Apostrophe par Bernard Pivot. Oui. Et il y a d'ailleurs dans cet ouvrage une ou deux pages sur Bernard Pivot. Est-ce que, pour les Français, écrire un livre? Alors vous dites, je ne suis pas écrivain, mais enfin, non. Vous êtes invité chez Pivot, vous avez tout d'un coup une espèce de pseudo-statut d'écrivain. Et est-ce que être écrivain, c'est la consécration suprême? C'est-à-dire, est-ce que quand on est un chanteur extrêmement connu, extrêmement populaire, devenir un écrivain, c'est encore mieux?
C'était, en ce qui me concerne, oui. Alors là, il ne faut pas me pousser beaucoup, je vais raconter ma vie rapidement, parce que comme il est bavard, le mec, il y en a pour 2 heures, là, autrement. Bon. Voilà, mon papa et ma maman sont venus de leur vallée. Ils ont eu une enfance très, très difficile. Ils sont venus travailler à la ville. C'est le grand exode rural et montagnard de l'entre-deux-guerres. Ils sont arrivés à Bordeaux en 1925, où je suis né. Oui, vous pouvez me demander l'année, puisque vous insistez. Vous savez, C'est Dormesson qui dit « J'ai compris que j'étais vieux du jour où on a cessé de me dire « Vous faites pas votre âge. » 1929, oui, madame, voilà.
Je voulais vous dire que vous avez 20 ans, mais répétez.
Oui, madame.
Moi, j'en ai 80 aussi.
Vous êtes une gamine. Donc, alors, c'est pour répondre longuement à une courte question pertinente. Mon papa et ma maman, dont arrive ici, ils n'avaient pas pu, malgré les... merci à Jules Ferry et à son école obligatoire. Ils parlaient le béarnais entre les enfants qui descendaient des hameaux quand ils avaient 7 ans. Première chose de l'instinct, le premier qui parle pas toi, on disait comme ça. Le premier qui parle pas toi, puni. Mais il faut se mettre à leur place, les pauvres. Ils avaient 3 ans pour dégrossir un petit peu ces petits pétzouilles qui descendaient de leur hameau. Ils avaient 3 ans pour apprendre un peu de calcul, un peu d'histoire, un peu de géo. Et la langue sacro-sainte, celle des livres, puisqu'il est, depuis François Ier, il était interdit de publier des choses un peu officielles, enfin peu ou prou officielles, autrement que dans la langue du roi. Bon, bref, passons sur les digressions. Toujours est-il que le français était la langue sacro-sainte, et je n'ai jamais vu chez moi, même s'il était d'une importance tout à fait discutable, je n'ai jamais vu jeter un livre chez moi. Mon père citait La Fontaine à longueur de journée. « Marcel, n'oublie pas que rien ne sert de courir, il faut partir à point. » Comme il était un peu engagé aussi, il disait « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. » Parce qu'il avait toujours un accent à couper au couteau. « Et papa, j'ai encore des lettres de maman, peut-être un peu moins. » Bien que ces gamins-là, on les enlevait à l'instit pour aller garder les vaches quand c'était nécessaire, malgré Jules Ferry. Bon, ces gens-là... J'ai eu des lettres de mon père, il n'y a pratiquement pas de faute d'orthographe. Bon. Alors, donc, mes parents m'envoient à l'école, ils m'ont donné, fils unique, ils m'ont donné tout ce qu'ils n'ont pas eu, eux, les pauvres. Ils m'envoient faire mes humanités, comme on disait encore à l'époque. Et la récompense, c'est qu'un beau jour, j'arrive à la maison, je dis que je ne suis pas du tout allé à la fac, après le bac, mais que j'étais au conservatoire. Ça a chauffé pour mon matricule. Mais alors, c'est pas un métier, ça. Le fils du facteur en face. Hein, il chante aussi, on n'entend que lui à la chorale. Mais il a un métier. Et alors ça, c'était la préoccupation suprême. Mais alors, tu n'auras pas de retraite. Oh là là. Eux, les pauvres, qui avaient tellement ramé, qui en avaient bavé tant qu'ils pouvaient dans leur montagne. Et là, il n'y avait pas de retraite, là-bas, dans la montagne, au début du siècle, en 1900, et des brouettes. Bon, si une vache se cassait la figure, ben, c'était pour leurs pieds, etc. Bon, et tout d'un coup, ils arrivaient à la... Ma mère m'a dit, j'ai commencé à prendre goût à la vie du jour où j'ai eu une paye à la fin du mois. Voilà. Donc, les livres, c'était une longue... Le livre était sacro-saint. Et papa, malheureusement, est parti avant de m'avoir vu imprimé noir sur blanc avec mon nom en haut de la couverture d'un livre. Et ça, j'aurais dû me décider plus tôt. Mais j'ai toujours écrit. J'ai écrit des chansons, j'ai écrit des sketchs, des textes de liaison. Et puis, j'ai toujours une plume à la main parce que j'aime ça. Mais tout d'un coup, se lancer dans une entreprise, de passer du 400 mètres et au marathon, oui, oui. Tout d'un coup, écrire un bouquin de 200 pages, c'est l'ami Dunton qui m'a convaincu de le faire. Il m'a dit, ton projet de télé là, que tu me montres, pourquoi t'en tires pas un bouquin? Mais j'ai dit, il y a des tas de pharmaciens et d'instituteurs qui écrivent et ils publient pas de bouquins. Il m'a dit, mais toi, tu peux. Alors, je lui ai donné un premier manuscrit. Il m'a dit, alors, attends. C'est bien et on va s'occuper de toi, mais cesse de te prendre pour Jean d'Ormesson. Écris comme voilà, écris pour ton père, pas pour Jean d'Ormesson, parce que celui-là tu l'épateras pas. Ton père peut-être, voilà.
Alors moi je voudrais vous interroger sur l'histoire de la langue française, parce que c'était l'admiration pour les livres chez vous, mais évidemment pour la langue française. Et le béarnais était une langue proscrite, vous l'avez dit. Ça.
Elle était proscrite.
Et alors comment vous vous débrouillez entre... Parce que vous avez chanté en béarnais...
Voilà. Mais c'est bien, j'apprécie que vous me posiez cette question sans vous flagorner.
Parce que tout d'un coup, ces langues qui avaient été évidemment exclues au profit... du français centralisateur, du français royal.
Puis jacobin.
Et puis Jacobin, évidemment. Bien sûr. Toutes ces langues, maintenant, sont en train de revendiquer leur existence, leur autonomie. Alors, vous êtes... vous brandissez le drapeau occitan?
Non, surtout, le drapeau. Les drapeaux, d'abord, pendant que papa avait fait la guerre de 14, et brandir des drapeaux, il faut regarder deux fois. Brandir le drapeau bleu, blanc, rouge à la guerre de 14, c'est une ignominie. Le brandir pour chasser les nazis de nos territoires, ça, c'est autre chose complètement. Alors, pas de drapeau. Papa et maman, dont les instits leur avaient appris la belle langue française, et eux, entre eux, les petits paysans, mon père et ma mère ne parlaient jamais français entre eux. Ils étaient toujours au village, ils étaient partis avec quelques déchirements quand même de leur vallée. Mais à moi, ils ne m'ont jamais dit un mot, jamais un mot en béarnais. L'instituteur a dit que ce petit n'était pas trop bête, qu'il fallait l'envoyer au lycée, donc on ne va quand même pas lui parler la langue des ploucs. Ça, c'est très important. Alors, le temps passe. Et bon, je vous fais des raccourcis, puisque comme vous l'avez remarqué, déjà, j'ai tendance à délayer. Ma situation familiale a fait que j'ai été en contact jusqu'à l'âge de 20 ans. Je suis parti en 5 ans de Bordeaux pour rejoindre Paris. Je me retrouve avec une enfant sur les bras, on séparait de la mère. On ne savait pas trop comment faire. Elle voulait la mettre en pension, puisqu'elle était danseuse. Mes parents disent « Quoi ? On est à la retraite, on arrive. » Et rebelote, pendant 20 ans de plus, j'ai été en contact avec mes parents. Et même chose, contact étroit avec mes parents. J'allais 3 ou 4 fois par semaine voir ma fille, et donc mes parents. Et j'ai été replongé dans ce bain béarnais. Bien, alors, l'importance, c'est celle-ci. J'étais infiniment attaché à ma mère, à mes parents d'abord, mais surtout à ma mère. Ma mère meurt. Et je me mets à parler béarnais avec mon père. Alors que je ne l'avais jamais fait. J'avais chanté, j'avais fait un disque. Je connaissais le répertoire des bergers, tout ça. Mais parler, je me mets à parler avec mon père qui pleurait comme une madeleine, le pauvre homme, mais ça m'émeut rien d'en parler. Et je me suis plongé là-dedans, par hommage à mes parents, et j'ai découvert que ce qu'on appelait par commodité un patois, enfin, on ne pouvait pas quand même laisser... C'est-à-dire, on a cru longtemps que de parler toutes ces langues, il n'y a qu'à relire la barrière et tout ce que disaient les conventionnels. C'est-à-dire, le patois, remettons des guillemets ou enlevons-les comme vous voudrez, ça va faire imploser la République une et indivisible. Ce qui est une connerie monumentale. Jaurès soi-même a écrit là-dessus des pages, au moins 2 ou 3 pages étonnantes. Il disait, une fois par semaine, ces petits paysans, parlez-leur leur langue. Vous allez voir comment ils vont devenir bons en latin. Bien vu. Alors qu'on pensait que de parler les langues régionales, ça ne pouvait véhiculer que l'obscurantisme. C'est faux. C'est pas vrai. Il ne faut pas pour autant négliger le français. Si vous parlez créole, si vous parlez breton ou si vous parlez corse, on y revient. Mais c'est pas pour ça que vous ne devez parler que ça. Vous n'irez pas très loin avec ça. Mais parlez. Et je prétends, je suis un mauvais polyglotte parce que je n'ai pas assez de mémoire pour retenir le vocabulaire et la grammaire de tous les pays. Mais je pense que mon goût pour les langues, j'ai enregistré dans cette langue, vient du fait qu'à l'origine, qu'on le veuille ou pas, je suis bilingue. Bilingue, il aurait préféré que je le sois en russe ou en japonais, mais je le suis en béarnais. Et le bilinguisme est une chose quand même qui, au contraire, ne m'a pas rabougri dans mon ouverture vers le monde et vers la République française une et indivisible, répétais-je. Ça a au contraire ouvert l'esprit. Et ceux qui ont le goût des langues régionales apprises autrement qu'en déployant des drapeaux, eh bien, bravo.
On va parler du livre, bien entendu, mais avant, je voudrais quand même vous poser encore une question sur votre vie. Et puisque vous êtes né à Bordeaux, comme vous l'avez rappelé, puisque une dame a dit votre année de naissance. Non, bon. En tout cas, parce que vous êtes, entre votre année de naissance, que j'ai oublié, et 1950, c'est-à-dire l'année où vous quittez Bordeaux, vous avez des souvenirs de Bordeaux. Absolument. Qu'est-ce que c'est que le Bordeaux ? À quoi il ressemble, le Bordeaux, cette époque ?
Mais le Bordeaux de ma jeunesse, d'abord, il n'y avait pas de bagnole. Il y avait que les gens qui avaient un peu de sous, qui pouvaient rouler en bagnole. Il y avait des vélos, on allait à pied, etc. Dans ma rue, dans ma petite rue, le passage de l'Aïdé, cours de la Somme, l'été, les mômes jouaient dans la rue. C'était « Attention les petits, voilà une voiture !» Maintenant, s'il faut se garer, je vois qu'il y a une bagnole. Bon, il n'y avait pas de voiture. Et, comme il fallait faire... bon, la vie n'était pas la même. Je sais que dans les quartiers... Puis je suis né à Bègles, enfin, à la maternité du cours de la Marne, mais mes parents habitaient Bègles. Puis après, dans un quartier ouvrier, passage l'aidé dans le cours de la Somme, on n'allait pas beaucoup au Chartron. Quand on a commencé à avoir un peu de moustache qui nous poussait, il y avait un fameux... Il paraît que vous appelez ça le triangle d'or, je sais pas. Enfin, oui. On allait draguer, comme on dit si laidement aujourd'hui, mais c'était pas mixte encore les écoles. Hein. Quand j'étais d'abord au lycée Michel Montaigne, d'où je me suis fait virer, je l'ai bien mérité, pour aller ensuite au collège moderne en rue du Commandant Arnoul. Bon, avec les bandes de copains, on allait au lycée de filles, pas loin, dans les parages, quoi. Et puis après, dans ces bandes de jeunes gens, on faisait le cours de l'intendance. Cours rue Sainte-Catherine, on revenait par... C'est quoi, le cours d'Albret, comment ça s'appelle ? Enfin, on faisait ce triangle-là. Bref, on vivait nos vies de jeunes gens qui n'étaient pas... presque pas celles de je vois avec mes enfants, puisque j'ai 4 enfants qui échelonnaient dans le temps. C'était pas du... la vie de Bordeaux, mon enfance et l'enfance, je suppose, des petits Lyonnais, des petits Marseillais, une fille d'un fils d'ouvrier qui a le bol, je le répète, d'aller un petit peu à l'école. Et puis, les gens... oui, il y avait le centre-ville, mais on faisait quand même... les quartiers se mélangent. Je crois que les Chartrons, et c'est pas les offenser que de dire ça, se mélangeaient pas trop avec les ouvriers.
C'est le moins qu'on puisse dire. Non,
c'est le moins qu'on puisse dire.
Et alors, il y a une chose que vous rappelez, là, dans ce livre, c'est que vous avez vu Blum, Léon Blum, à Bordeaux.
Ouais.
Comment ça ?
Eh bien, papa qui était revenu de la guerre, à 17 ans, il gardait les vaches. À 18 ans, il était au chemin des dames avec un masque à gaz, une baïonnette au canon. Après qu'on lui ait bien expliqué, après qu'on lui ait dit que tu ne tueras point, il fallait lui expliquer qu'on avait une médaille sur l'enfant, c'est bien la baïonnette dans le ventre du monsieur en face, habillé en feldgrau. Donc, papa était revenu complètement révolté de la guerre de 14, et tout d'un coup, en 1917, là-bas, en octobre 1917, il y a des gens qui lui expliquent que le prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Et il avait plutôt envie de croire ça que l'adjudant qui disait comment il fallait enfoncer la baïonnette. Bon, il est revenu complètement révolté et engagé syndicalement, lui qui n'avait pas son certificat d'études, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faisait pas de faute d'orthographe et il avait beaucoup... C'est devenu un autodidacte pour être secrétaire quand même de la section CGT de Bègles, c'est pas mal quand même. Quelle était la question ? Je m'éloigne, vous voyez.
Blum.
Alors donc, papa était très franc populaire, évidemment, comment le comprend mon papa ? Et un jour, on va au parc Bordelais, voir Léon Blum en 1936. J'avais donc 7 ans et je me revois juché sur les épaules de papa au parc Bordelais. Papa, comme un fou, me disant « Regarde Marcelou, regarde là-bas, c'est Léon Blum !» Je me demandais pourquoi ce moustachu et binoclard pouvaient mettre mon père dans un état pareil. Voilà l'explication.
Est-ce que ça a eu une orientation ? Est-ce que ça a eu un effet définitif sur votre orientation politique ? Pas cette rencontre-là.
Il faut que j'essaie d'éviter la démagogie.
Ouais.
C'est facile là, de dire oui, mais moi, je n'ai jamais oublié mes origines, je n'ai jamais oublié la promiscuité dans laquelle nous avons vécu. Les sacrifices, il faut bien le dire, qu'ont fait mes parents pour... J'étais improductif quand même jusqu'à 18-19 ans, alors que les autres, les mômes, ils ramenaient une petite pièce de leur lieu d'apprentissage, etc. Donc je suis resté fidèle à mon milieu d'origine, même si... Alors j'ai ramé à Paris, j'allais pas quand même leur envoyer des lettres enthousiastes pour les rassurer, et en même temps leur dire par la même occasion, envoyez-moi un petit mandat, parce qu'ils n'avaient pas de compte en banque, évidemment. J'allais quand même pas leur infliger ça. J'ai ramé à Paris, ça a été très très difficile, mais à un moment donné, à partir de 56, bon, j'ai eu cette chance, ça a duré quelques temps, ça a duré une bonne quinzaine d'années. J'ai quand même eu une espèce de manne qui m'est tombée sur la tête, et je me suis dit que ça m'obligeait pas pour autant à retourner ma veste. Alors, ça s'arrête là. Maintenant, le sectarisme, c'est pas ma tasse de thé non plus. Et je fais la part des choses, je n'en dirai guère plus. Ah tiens, je vous la chanterai d'ailleurs. Voilà, j'ai écrit une chanson en hommage à papa et à maman.
Ah.
Et elle figure dans le livre.
Oui.
Lettre à papa et maman. C'est-à-dire, à l'époque, on se
devait... Brassens, ça fait ça aussi.
Oh, bien sûr. Et alors, donc, on se devait, quand on était... Il n'était pas inscrit au Parti communiste. Ça lui a sauvé, d'ailleurs, la vie pendant la guerre. Il ne figurait sur aucune liste. Et ça lui a sauvé. Et on se devait d'être anticlérical. Ça, c'est sûr. Il fallait bouffer du curé toute la journée. Autrement on n'était pas un vrai de vrai. Et j'ai donc écrit, en hommage à papa et maman, la chanson que vous voyez. Je ne vais pas vous la chanter en entier. La chanson... Non !
Le début.
Papa était coco, maman était cato. Je suis né parmi les fossiles, les marteaux, les crucifixes et les madones. Mi don camillo, mi pépone. Je me suis retrouvé en sandwich entre Pidouze et Vladimir Ilitch. Cato coco, y a pas vraiment de quiproquo, y a pas photo. Mais pour moi, c'était le statu quo, Kremlin, Vatican, ex aequo. Du coup, c'est le grand méli-mélo, les cocktails molotov de vin de messe et de vodka, les pot-pourris d'international et d'Ave Maria, les fêtes de l'humain et les kermesses du patronage, les enfants du bon Dieu et les canards sauvages, les orgues de Staline et les trompettes de Jéricho, les chœurs de l'armée rouge et les oeufs pontificaux, la croix, la bannière et le front populaire. Ah, vive la révolution et la calotte et le goupillon, vous voilà fixé.
Ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est le partage entre la langue française et le dialecte béarnais.
Oui.
C'est un père coco, une maman cato, n'est-ce pas ? Donc quand on grandit comme ça, entre deux...
Ça rend tolérant,
voilà. C'est plutôt une bénédiction.
Oui, par les temps qui courent, qui continuent à courir.
Alors... ce livre dont vous avez dit, je crois que c'était le septième, vous avez dit c'est le huitième.
Huitième. Oui.
Il a choisi la forme de la lettre, de la correspondance. Et vous expliquez pourquoi dans le tout petit avant-propos. Alors pourquoi, en effet, parce que vous avez écrit des ouvrages qui avaient l'allure de mémoire, de souvenir, vous avez écrit... sur la chanson française. Vous avez fait un recueil de chants béarnais.
Un pamphlet aussi, comment, démarquant notre ami Montesquieu, comment peut-on être gascon ?
Comment peut-on être gascon, voilà. Bon. Et là, donc, c'est un recueil de lettres adressées à des amis, bon, dont certains lointains, comme lointains mais proches du cœur, comme Mandela. Pourquoi avoir choisi cette forme littéraire qu'est la lettre, la correspondance ?
C'est pas moi. C'est-à-dire mon ami Paul Fournel, dont je répète, il est président, secrétaire à vie de l'Oulipo. Hein. Bon, donc il est de bon conseil, mon ami Paul Fournel, et il était, parce que vivre de sa plume n'est pas aisé du tout. Il y a toujours une autre activité, ou prof, il y a beaucoup de profs, beaucoup de journalistes, etc. Lui, il a été éditeur, et je l'ai connu par l'Alliance française. Il m'a fait venir à San Francisco, où il y a beaucoup de Basques et de Béarnais, au Caire et à Londres. Bon, et je l'ai connu et apprécié comme ça, on est devenus très amis, et de temps en temps, je l'envoie... Parmi les choses que j'écris, j'en ai 3 mètres cubes. Je ne peux pas tout envoyer puisque je suis comme aussi bavard. J'ai la scriptorée. Aussi. Et de temps en temps, je lui avais envoyé des nouvelles. Il m'a mis en rapport avec Jean-Loup Chifflet, qui est un type tout à fait épatant, qui a écrit Oxymore, mon amour, qui est un truc tout à fait drôle. Et Sky, my husband, c'est lui. Et ce type-là qui publie des choses assez humoristiques et très littérairement musclées, m'a dit, au bout de 8 jours, m'a dit, écoute, ça me plaît tes nouvelles, mais tu n'as pas la notoriété dans le monde du livre pour remorquer ça. Et si tous ces gens que tu as croisés, si tu leur envoyais des lettres, j'ai dit, mais attends, j'ai jamais fait ça. Et il m'a dit, essaie. J'en ai fait une dizaine pendant l'été. Il m'a dit, eh ben voilà, tu m'en fais 40 de plus. C'est venu comme ça. Alors, il y a évidemment des trucs un petit peu olé olé, des choses imaginaires. Mais j'ai essayé, je me suis efforcé, autant que j'ai pu le faire, je me suis efforcé Voilà, que ce ne soit pas Bossuet qui fait des sonorisations funèbres, on n'attend pas ça de moi. Il faut que ce soit ou drôle ou inattendu. J'ai essayé de braquer un peu sur les gens, à part Nelson Mandela et certains héros comme les musiciens du Titanic qui ont joué pendant toute la durée du naufrage jusqu'à ce que la mer les engloutisse eux-mêmes, qui ont joué, pas auprès de toi, oh mon Dieu, mais ils ont joué des foxtrots. Quelle merveille, bravo les mecs. Et j'ai, bon, à part des gens comme ça, j'ai essayé de brancher voilà, la lunette par son petit côté. Et contrairement, c'est paradoxal, mais le petit côté de la lorgnette, il a souvent des effets grossissants. Et voilà, donc j'ai cherché un angle qui soit un petit peu... qui correspondent un petit peu à mon personnage, un peu extraverti, un peu m'as-tu vu, un peu tout ça, voilà.
Oui, ça marche très bien, tout ce que vous venez de dire là, y compris les deux qualificatifs. Mais, alors, une chose d'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec le Titanic. Moi, je veux continuer à croire qu'ils ont joué plus près de trois mondiaux. Absolument, c'est absolument magnifique. Vous aussi, voilà, ils ont joué plus près de toi, mon Dieu.
Non.
D'ailleurs, au cinéma, on pleure quand on les voit. Ah, si c'est du foxtrot, c'est bien aussi.
Non,
c'est bien aussi, mais...
Non, mais ils y sont, à la droite de Dieu. Ils
oui,
y sont.
Bon, alors, ils sont huit. Ils sont huit, vous citez leur nom. Et on peut revenir à ces années que vous venez d'évoquer très rapidement, où vous arrivez à Paris... C'est un peu la vache enragée, oui. C'est difficile. Et puis tout d'un coup, quelque chose se passe qui a été déterminant. Alors ça, vous en avez parlé, bien sûr, maintes fois, mais on peut quand même le redire aujourd'hui, je crois. On ne peut que redire, d'ailleurs, certaines choses qui sont vraiment importantes. Le récital avec Piaf, ça a été le tournant ou le départ.
Ah, totalement. Il y a eu l'avant et l'après voilà. Olympia, c'est sûr.
Oui. Alors parlez un peu de ça.
Eh bien, je suis arrivé à Paris, donc j'avais deux, trois adresses. Et bon, j'étais gymnaste, je courais les 800 mètres, et le peu de temps où j'ai été étudiant, j'avais fait le conservatoire de comédie, je jouais les valets de Molière. J'avais une palette assez large pour que mon tour de chant, je peux en le dire rétrospectivement, sans fausse modestie, ça marchait assez vite. Mais les engagements ne se suivaient pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu dis que tout va très bien à tes parents pour les rassurer, mais attends, mais là j'ai rien pendant 15 jours. Que je bouffe quoi, là? C'est ça. Et payer la chambre d'hôtel et tout ça. Et donc, ça s'est soldé quand même par un an de sana. J'ai ramé, donc, et parce que peu après, je me suis fait un nom. Ça a fait boule de neige. J'ai eu des engagements suivis suffisamment des cas pour manger à ma faim et ne pas avoir... Bon, pour arriver à joindre les deux bouts tranquillement... Et puis, je me suis fait mon nom. Bon, je vais illustrer ça d'une autre façon. Je suis arrivé de seconde classe, première classe, caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, voilà. J'en étais là, je progressais peu à peu. Et puis, j'assurais quand même l'essentiel pour survivre. Et j'avais quand même gagné le prix d'interprétation à Deauville, mais j'étais quand même pour le grand public... Pour le grand public, pour les braves gens, j'étais connu des noctambules puisque je me suis tapé tous les cabarets de la rive droite et de la rive gauche, enfin tous ceux qui ont bien voulu de moi, mais le public ne me connaissait pas. Et à ce moment-là, on ne va pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas d'un intérêt majeur, mais je me retrouve, contre toute attente, je me retrouve supplément au programme d'Edith Piaf en 1956. Et supplément au programme, ça voulait dire qu'on chantait trois chansons en numéro 2. J'avais donc, comme je viens de le dire, une certaine bouteille. J'avais déjà 7 ans de métier. Et or, comme supplément au programme, faisait passer des débutants. J'étais inconnu du public, mais je n'étais plus un débutant. Enfin, déjà, je m'étais affranchi de mes influences. Je n'imitais plus Yves Montand. Je n'imitais plus Charles Trenet. J'avais moins de succès en restant Marcel Amont. Mais bon, moi, je m'étais trouvé un style. Et j'ai... Bon. Le soir de la première arrive. Je n'ai jamais plus vu ça de ma vie. Jamais plus. Edith Piaf, Cerdan venait de se fracasser sur une montagne des Açores. C'était la Madone des sept douleurs. Elle était en scène. Il y avait dans la salle non seulement le brave Populo, qui est quand même indispensable, et Dieu merci, mais il y avait dans la salle Charlie Chaplin, Yves Montand, Maurice Chevalier, Marlène Dietrich. Je n'ai jamais vu un parterre aussi éblouissant. Et voilà Totor qui arrive, en plus survolté, parce que j'avais la trouille, je l'ai essayé de la surmonter. Et ça vous envoie l'adrénaline, le trac. ou bien ça vous fout par terre, vous n'en sortez pas une, ou bien alors ça multiplie votre... enfin, ça multiplie tout par 10. J'arrive avec une pêche d'enfer et je casse la baraque. Et c'est vrai parce que, ce ne sont pas des propos mercantiles, mais ça va tout vous illustrer. Au mois de mars, j'ai fait un gala pour les médaillés militaires de Noyon, je me rappellerai toujours, pianiste compris. Et au mois d'octobre, j'ai gagné 12 fois plus. Plus, je n'avais jamais enregistré de disque, j'en rêvais jamais. Ils sont venus, la Maison Polydor est venue avec le matériel pour m'enregistrer live, comme on ne disait pas encore. Et mon premier disque, Grand Prix du disque. Et dans la foulée, le film, signature du livre, du film avec Brigitte Bardot. Je crois que pendant toute la nuit qui a suivi, les deux nuits, je n'ai plus dormi. Ça y était. Il y a eu donc l'avant et l'après Olympia. Voilà. Le reste, après, bon, on ne va pas faire comme les champions qui énoncent un palmarès. Mais ça s'est passé comme ça. J'ai bien. D'abord, très difficile. Puis après, stagnant. Puis l'Olympia. L'Olympia. Je signale au passage, puisque vous ne me le demandez pas, qu'il ne s'est rien passé entre Piaf et moi.
Mais j'allais vous le demander, justement. Hein. J'allais vous le demander. Vous anticipez sur ma question suivante. Mais, enfin, bon, j'aurais pas posé la question tout à fait comme ça, parce qu'en effet, les jeunes chanteurs lancés par Piaf, on savait que... Bon,
eh ben non.
Non, alors pas vous. Bon. plus intéressant que ça, il y a... Et ceci, c'est-à-dire que vous avez dit que, par exemple, Montand a été pour vous un modèle absolu, et que vous cherchiez à imiter Montand. Et Montand, c'est quelqu'un qui, sur la scène, ne reste pas immobile. C'est quelqu'un qui est à la fois un comédien et un chanteur. C'est quelqu'un, quand il interprète Battling Joe ou dans les plaines du Far West, n'est-ce pas, bon, il fait le boxeur, il fait le cow-boy. Et alors, et ça vous a beaucoup impressionné, beaucoup marqué.
Au-delà de ce qu'on peut dire.
Voilà. Et puis Piaf, elle ne fait pas le boxeur, elle ne fait pas le cow-boy, elle est immobile. Et là, vous vous apercevez, c'est dans la lettre à Piaf, que chaque mouvement de main qui se pose contre la fameuse petite robe noire, n'est-ce pas, que chaque mouvement de main est étudié. Autrement dit, elle vous aide, me semble-t-il, Piaf, à acquérir cette idée de façon définitive que sur la scène, c'est aussi un spectacle, et vous parlez, à propos de vos chansons, de chansons scéniques.
Bien vu, bien vu. Je pense que vous avez tout dit. Mais il faudrait quand même... Piaf, alors, je prenais une leçon, moi qui avais fait le conservatoire, je jouais les valets, je jouais Papyrus. On n'a pas besoin de moi pour jouer Racine ni Corneille. Bon, mais je jouais les valets avec, d'ailleurs, au Grand Théâtre. Là, je voyais tout à l'heure, je passais devant. J'ai joué Mascari. Là, j'ai eu mon prix dans Mascari, des précieuses ridicules. Bon, mais enfin, bon, bref, c'est pas tout à fait comparable. Piaf, c'était une leçon de spectacle inouïe, mais c'était surtout l'art dramatique. Elle l'avait surtout dans sa voix. Qu'elle mette la main ici ou là. J'y étais très attentif puisque j'étais devenu un visuel. Mais c'est bien que vous ayez parlé de Montand, parce que là, j'étais encore à Bordeaux. Or, les personnes comme de ma génération, vous le savez, je ne sais pas quel est votre milieu social, mais dans les milieux ouvriers, il y avait le poste de TSF qui trônait au milieu de la cuisine. On avait le poste. Et je savais toutes les chansons. Mon père et ma mère, c'était plutôt Berthe Silva et Tino Rossi. Bon, c'était pas
bien.
C'était très bien, mais enfin, c'était autre chose.
Surtout moi, Berthe Silva.
Moi, c'était Montand, c'était Ray Ventura et son orchestre, c'était Charles Trenet. Je les voyais. On allait de temps en temps au Cinoche avec mes parents, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, sans faire de misérabilisme, les fins de mois étaient difficiles, on n'allait pas au théâtre, et tout ça. Et ces gens que j'admirais, et dont je connaissais des chansons par cœur, je ne les avais jamais vus, je ne les avais pas vus. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et un jour, Yves Montand passe à l'Alhambra, et là j'ai reçu le choc de ma vie. Je pense que ça a déterminé l'orientation, puisque je voulais être un peu comédien, un peu chanteur, tout ça. Je me suis dit, non, c'est ça que je veux faire. Battling Joe, que vous avez cité et que je cite, il raconte dans Battling Joe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu teigneux, un petit ch'ti qui se bagarre tout le temps, et puis un manager le remarque, il devient champion d'Europe de boxe, et il finit aveugle, Joe, Joe, oh, Joe. Il est là avec sa canne blanche. En 3 minutes. Et là, j'en revenais pas. Je pensais pas qu'on pouvait en 3 minutes faire autant de choses. Je me suis dit, si un jour je fais ce métier, puisque je sais marcher sur les mains, jouer la comédie et chanter, ça sera ça que je fais, si je peux. Voilà. Et donc je pense que ça a déterminé. Et je devais avoir 18, 19 ans. Ouais, oui, je devais être en conservatoire déjà à l'époque. Et quand vous parlez, donc, c'est pas pour dire, ah, quand vous avez bien vu la chose. Vous avez bien vu la chose parce que j'ai été de plus en plus attentif à ce que faisaient scéniquement, y compris ceux dont le talent était primordialement vocal. Tino Rossi, bon, mais ça ne me serait pas venu à l'idée. Attention, je ne cherche pas du tout à offenser sa mémoire, mais Tino Rossi, au Corse, le d'amour, ça ne m'intéressait pas. Mais tous les gens qui faisaient quelque chose, et Edith Piaf, effectivement, elle paraissait immobile, mais tous les soirs, puisque je la regardais chaque fois que je pouvais depuis la coulisse, la main venait là, ou bien là, le geste venait là, ou bien ça, à des moments précis. Tout ça a été bien étudié.
Alors, on va revenir à la chanson, mais je ne peux pas ne pas faire une parenthèse quand même, ça. J'avais oublié. Et Brigitte Bardot. Brigitte Bardot.
Eh bien, elle non plus.
Elle s'en souvient pas, quoi.
Mais j'ai pleuré. Hein.
Alors, c'est 1957 ou quelque chose comme ça. La mariée est trop belle. Moi, j'étais à Grand-le-Brun. Je dessinais en marge de mes cahiers le profil de Brigitte Bardot. Pas trop. En mettant beaucoup de cheveux sur la poitrine pour que les marianistes ne soient pas choqués. J'étais fou amoureux. Et vous tournez avec Brigitte Bardot.
Oui, monsieur, moi que alors, vous voyez.
Vous qui êtes là, à côté de moi.
Oui.
Dites-nous quelque chose sur ce tournage. Mais
elle était sublime. Elle était sublime. Moi, j'avais quand même là, j'avais 27 ans, et à la suite de l'Olympia, je l'ai déjà expliqué.
Elle avait cet âge-là aussi.
Elle était un peu plus jeune que moi, elle devait avoir 2-3 ans. Et elle était, voilà, elle était ce que non pas ce que Vadim en avait fait, mais ce que Vadim avait cultivé, c'était la fleur qu'il avait arrosée. Oh, que c'est bien dit.
Lui, ça dépend comment on peut interpréter la métaphore. Bon,
elle était charmante, elle était adorable. Elle était, j'ai raconté dans d'autres temps. Elle a été charmante parce que la mariée est trop belle. C'est après et Dieu créa la femme. Mondialement, on était en train de célébrer la femme d'aujourd'hui, de l'époque. Bon, elle était la femme moderne libérée, mais et tant mieux qu'elle ait apporté. Elle était le reflet de son temps. Il y avait Micheline Prel, qui est une fille très jolie, très talentueuse, peut-être plus talentueuse théâtralement qu'elle. Mais elle incarnait la femme de l'époque. Mais je dis pas que j'avais ce qu'il fallait pour la séduire. Elle venait de quitter Vadim pour Trintignant. Elle était avec Trintignant. Point barre. Elle regardait pas les. Si, elle était gentille, charmante, mais elle allait pas flirtailler avec les autres. Voilà. Ça, c'est bien. Mais libérée, elle avait envie de répondre aux avances d'un mec. Si elle était libre, ben elle y allait. Et puis c'est tout. Gréco déjà elle avait déjà un petit peu libéré le moyen d'expression du féminisme triomphant dans ses chansons, je veux dire. Et Bardot, avec Dieu créa la femme, elle était dans elle suivait la route.
Alors,
oh, il soupire, il est malheureux.
Non, je suis jaloux. Enfin bon, je vous dis très rétrospective quand même, faut bien dire. Donc, parmi ces lettres, évidemment. Il y en a une qu'on attend parce que ça a été un ami irremplaçable et puis qui a joué dans votre carrière un rôle important. C'est quelqu'un que j'aime infiniment, qui est Brassens. Alors, vous en avez parlé souvent déjà.
Souvent, je ne me lasserai pas d'en parler.
Mais on peut quand même en reparler. Et évidemment du cadeau que que Brassens vous a fait. Puis je pensais à Brassens quand vous parliez de Montand, parce que ou de Tino Rossi, Corsilio d'amour, ça. Et Brassens sur la scène, ça, la chanson scénique, elle était réduite quand même au minimum.
Oui, avec quand même, avec une certaine immobilité, 100 kilos de swing qui arrivait là.
Oui, ah, ça c'est autre chose, c'est pas la musique.
C'est un tout, ça, ah, mais c'est un tout sur une scène. Hein.
Oui, oui, oui.
Si
oui.
Vous voyez un type, Tino, le brave Tino, encore une fois, j'ai l'air de m'acharner sur la mémoire de Tino, pas du tout. Mais le Georges, il avait une présence scénique que n'avait pas Tino. Donc Brassens, vous dites, a joué un rôle important dans mon métier. Non, pas dans mon métier, mais dans ma vie.
Oui.
On s'est connus à la Villa d'Est, où il n'était pas du tout heureux de se trouver là, mais c'était ça ou la Régie Renault, parce qu'il avait fait un peu l'andouille dans son adolescence, et il n'avait même pas le bac, il ne pouvait pas présenter de diplôme. C'était ou le cabaret, comme on lui conseillait de le faire, puisqu'on savait qu'il écrivait des chansons. Oh, enfin, ce n'était pas moi, puisque je ne le connaissais pas. À l'époque, c'était ça où la Régie Renault allait visser des boulons. Il avait compris que c'était quand même plus commode de gagner sa nourriture en allant chanter. Mais il n'était pas heureux à l'époque. Après, le public l'a apprivoisé et il a fini par aimer aller en scène. Les gens l'aimaient tellement. Bon, et donc Brassens jouait dans ma vie, parce qu'on était à la Villa d'Est tous les deux, on a sympathisé, moi l'agité perpétuelle, lui le gros placide. Et bon... Son répertoire, je l'appréciais, puisque j'appréciais les beaux textes. J'ai pratiquement rien reproché à toute son œuvre. Si les tontons, les tontons et les tontons, oui, mais enfin bon, allez, oublions.
Les deux oncles.
Les deux oncles, voilà. Bon, c'est un... Il m'a dit un jour, je lui dis, mais oui. Il me dit, genre, il me dit, tu sais, on dit souvent que je ne suis pas un grand poète. C'est vrai, mais pas un tout petit non plus. Voilà. Donc, Georges, le temps passe, on est copains, on se voit, il vient chez moi. J'ai 10 000 anecdotes, je ne vous les raconterai pas parce qu'on serait là demain matin encore. Et... Oh, l'histoire du... Je raconterai une autre fois l'histoire du canard. Du canard aux ananas, non, pas du canard. Du lapin à la moutarde. Bon, bref. Je raconterai une autre fois. Pour mon prochain livre, je raconterai. Et donc, Georges, j'avais des soucis. Ça n'allait pas. Dans ma vie privée, ça allait très mal. Il le savait, évidemment, puisqu'on se voyait souvent. Et c'était pas du genre à mettre sa grosse paluche sur votre épaule en disant « Toi, tu es mon pote. Toi, tu sais, allez, ça va. » Non, 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 il dit rien. Et chez lui, il me chante. Il nous testait. Hein. Le petit Le Forestier, le petit à l'époque, il débutait, le petit Maxime Le Forestier, Moustaki, tout ça. Il nous chantait ses chansons pour voir un peu comment on réagissait. Enfin, les gens qui lui parlaient franchement, dont nous faisions partie. Et il nous testait. Il me joue le chapeau de Mireille. Le chapeau de Mireille, deux fois plus lent que moi, évidemment. Enfin, que la version que j'en ai donnée pour la suite. Et je dis, ouh la vache, celle-là, elle va cartonner, elle marche. J'étais à des années-lumière d'imaginer ce qui allait arriver. Et je dis, rejoins de la main, le chapeau de Mireille. Et à la fin, je lui dis, ben celle-là, j'en ferai mes beaux dimanches. Ah bon? Eh ben, je te la donne. Et les gens qui disent, Brassens a écrit une chanson pour vous. Non, c'est bien plus extraordinaire, il l'avait écrite pour lui. Et merci Georges, quoi. Il ne faut pas en rajouter, mais merci Georges. Savez-vous quelle est la lettre que je préfère?
Attendez, je voudrais qu'on continue à parler de Brassens. J'ai un tout petit peu deux choses sur Brassens. D'abord, vous avez commencé à répondre déjà en partie à une question que je me posais. C'est-à-dire que le chapeau de Mireille, il y a des chansons de Brassens qui ont été interprétées, qui n'a pas écrites ni données, mais qui ont été interprétées par Barbara, par un certain nombre.
Juliette.
Par Juliette, le temps passé. Bon, je trouve qu'elle le chante très mal. Mais enfin, bon. Et moi, je ne suis pas un fou de Juliette Gréco. Mais ça, c'est un autre débat. Et puis, après, Maxime Le Forestier, bien entendu, qui a repris la quasi-totalité du répertoire de Brassens, notamment après sa mort, bien naturellement. Mais une question que je me posais, c'est que le chapeau de Mireille, qui est une magnifique chanson, et qu'en effet, vous interprétez d'une façon absolument incomparable. Je me disais que vous étiez le seul à avoir entendu la manière dont Brassens, lui, le chantait. Puisqu'il vous l'a chanté, il vous l'a donné. Et vous êtes donc le seul à avoir entendu Brassens chanter cette chanson-là. Et alors, Je me disais, mais il ne peut pas le chanter sur le même tempo que...
Ah, c'est pas possible.
Voilà. Alors, comment le chante,
le petit énergumène qui s'agite, qui coupe la parole et tout, ça ne va pas avec Brassens qui lui... Non, mais
c'était beau quand il le chantait, quand même.
Ah oui, mais j'ai une cassette, d'ailleurs, je l'ai donnée. On doit commencer à l'entendre maintenant. J'ai une cassette de répétition.
Ah oui.
Le chapeau de Mireille, contemple un vol. Mais ma grande gloire, c'est d'avoir mis en musique deux textes qu'il m'avait donnés. Le vieux, ça n'a pas cartonné, les gens ne le savent pas, mais j'ai mis en musique Le vieux fossile et Une petite Ève en trop. Ah ben je vous les enverrai.
Ouais. Ah oui, oui.
Oui, mais enfin, ça n'a pas cartonné, c'est jamais passé sur les ondes. Évidemment, les programmateurs, ils font ce qu'ils veulent, ça, ils ne l'ont jamais passé. C'est dans deux disques différents. Alors,
et sur, oui, sur Brassens, il y a une autre anecdote qui est dans le livre, qui est quand même intéressante, c'est que... Il connaissait par cœur tout le répertoire des années 30 et même des années antérieures. Il connaissait Mireille et Jean Nohain sur le bout du doigt. Il connaissait Pile cet abbé sur le bout du doigt. Et les chansons de Maurice Chevalier. Et alors, il y a eu une rencontre entre... Alors, on imagine mal Maurice Chevalier et Brassens, l'un en face de l'autre, mais...
Mais. Eh bien, je raconte...
Mais
Je raconte. Il ne faut pas me pousser. Moi, je vous ai dit, il faut me faire plutôt comme ça.
Mais vous voyez bien, je vous pousse
un peu. Je ne suis pas du genre qu'il faut accoucher au forceps. Hein. Bon. Donc, il venait souvent à la maison. Et Maurice Chevalier, qui était le pater familias du music-hall, qui est un type adorable, qui avait été quand même number one dans le monde entier à son époque hollywoodienne. Il ne faut quand même pas l'oublier. Il n'y a pas beaucoup de Français... même Montand et même Piaf, qui peuvent se vanter d'avoir été pendant 7 ans le chanteur, the French singer in the world. Il y avait Maurice Chevalier. Il y avait que ces 4-là. Bon. Et donc, Maurice Chevalier me dit un jour, Marcel, il venait nous rendre visite, les uns et les autres, enfin ceux qu'il aimait bien. Et un jour, il me dit, Marcel, je sais que vous êtes ami avec Georges Brassens. Cet immense bonhomme, comme la modestie de ce gars qui avait peur de prendre un râteau avec Georges, cet immense bonhomme me dit je sais que vous êtes, j'aimerais bien le connaître. J'ai dit je vais lui demander, bien sûr, Maurice, je vais lui demander. Et j'ai dit à Georges, dis donc, il y a le vieux qui voudrait bien te connaître. Il me dit oh, formidable. Il était heureux. J'ai organisé ça chez moi, à Villennes-sur-Seine. Georges, au dessert, a pris sa guitare et il a chanté à Maurice. Toutes les chansons, y compris celles que Maurice avait oubliées, des chansons remontant à ses débuts. Brassens était une bibliothèque et ambulante, parce que c'était Brassens, c'était tous les chanteurs. Mais il y avait aussi dans l'eau, et pas qu'un peu, Baudelaire, Rimbaud, Dubellay. Il était hypermnésique, excusez-moi de faire mon pédant, mais c'était un gars qui était incapable d'oublier un texte. C'était incroyable. Bon. Et donc, il prend sa guitare et lui chante tout ça. Alors, l'anecdote qui se branche là-dessus, c'est que ma mère, donc, était une paysanne, on l'a dit, elle avait appris à la ville, avec des voisines gentilles et tout ça. « Ma petite, je vais vous apprendre à faire des plats. » Ma mère, entre autres choses, réussissait très bien le lapin à la moutarde. Bon. Et le jour où il y a Maurice et Georges à la maison, ma mère fait du lapin à la moutarde. Et tout le monde se lèche les babines. Et Georges, ça vous plaît ? Oui, madame Miramont, très bien, c'est mon nom. Oui, très bien. Eh bien, reprenez-en. Non, si, oui, il en reprend. Bien, le temps passe. Je vais chanter à Tokyo. C'est pas pour vous dire que je vais aller... Mais genre, même je l'ai glissé quand même, je suis
un
pas
peu,
mécontent.
Un peu, c'est pour nous le dire un peu. Voilà, et bien sûr.
Je trouve un message sur mon truc. Rappelle-moi, Galopin. Le Galopin rappelle... Dis donc, pendant que tu... On se voit, on se rappelle et on se voit. Dis donc, je voulais te dire quand même un truc important. Pendant que tu étais à Tokyo, qu'est-ce qu'on peut avoir à foutre à Tokyo ? Mais enfin, tu étais à Tokyo. Maurice m'a invité chez lui à la Louque. Ah bon, ben très bien. Comme il a vu que je reprenais du lapin à la moutarde chez toi, il y avait quoi au menu ? Du lapin à la moutarde. Eh bien, tu diras à ta maman, avec le maximum de ménagement, que je déteste le lapin, et particulièrement quand il est à la moutarde.
Moi aussi. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que il y a un document qu'on trouve sur Internet très facilement. C'est Brassens étrenné. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il connaissait les chansons de Trainé mieux que Trainé, qui les avait oubliées. Il lui dit petit oiseau. Alors, mais quel petit oiseau dit Trainé, oui, petit oiseau dans la nature. Il connaissait mieux que Trainé.
Ah, bah, je répète encore, je me gargarise pas du mot, mais il était hyper amnésique. Il y a des gens comme ça. Il y en a un qui n'a rien à voir avec la chanson. C'est Pierre Bénichoux. Pierre Bénichoux connaît des milliers de chansons. Et Bernard Pivot, dont nous parlions tout à l'heure, Bernard Pivot m'a expliqué qu'il y a un type qui est encore plus formidable parce que lui, c'est de la prose. Il paraît que Jean d'Ormesson récite des pages de Chateaubriand. Mais attendez, moi, s'il y a des vers, s'il y a une cadence, encore, on peut arriver à retenir. Réciter du Chateaubriand des pages. Ben voilà.
Jean d'Ormesson, il récite des pages de Chateaubriand, mais il récite. Alors ça m'a beaucoup touché de trouver son nom dans votre livre. Paul-Jean Toulet, il a une passion pour Paul-Jean Toulet. Et parmi les gens que vous aimez, vous mettez Paul-Jean Toulet. Oui.
C'est curieux, vous qui avez été prof de lettres, comment se fait-il que sa notoriété ne soit pas estimée à sa juste valeur?
Je n'y suis pour rien, parce que moi, je parlais de Paul-Jean Toulet à mes élèves, mais je n'ai pas une autorité suffisante pour que l'ensemble de l'éducation nationale adopte.
Le reflet,
depuis toujours, il est considéré comme un poète mineur. On le rattache à l'école des fantaisistes.
Alors
voilà. Or, il y a énormément de... Alors, ne parlons pas de nous deux, mais il y a énormément de grands esprits qui admirent tous les... Borges, admiré. José Luis Borges, c'est pas le prononcer à la...
C'est bien.
Non, c'est Borges.
Borges.
Oui, voilà, vous le dites beaucoup mieux.
Mais demandez-moi quand vous ne savez pas.
Il admirait tous les... Non, bon, c'est très content de trouver tous les... Alors, on ne va pas pouvoir parler de tout. Il faudrait quand même... d'abord, il y a d'abord juste une chose. Dans le préambule, avant propos, la préface, vous dites évidemment le danger de lettres écrites à des amis, c'est que ça tombe dans la profusion d'encens, etc.
C'est né rhubarbe.
C'est né rhubarbe, etc. Ou bien dans la mise en scène personnelle avantageuse de soi-même. Bon. Alors ce sont des périls que vous essayez d'éviter.
Que je sais.
Voilà. Mais il y a une chose que vous ne dites pas, c'est que la lettre, ça peut être aussi un règlement de compte assez sévère. Oh. Et il y en a au moins une.
Ouais.
Charles Aznavour, c'est comme ça. Charles Aznavour, c'est à moitié.
Je ne l'ai pas voulu dans ce sens.
Bon, enfin, elle est très ambiguë, la lettre. Vous avez tout à fait raison. Enfin, il y en a une qui n'est pas ambiguë du tout. C'est la lettre à Antoine de Caunes.
Oui.
Alors, ça, c'est un assassinat. Alors là, à un moment, vous dites, moi, le petit Béarnais Teigneux. Ah ben, le petit Béarnais Teigneux, là, dans la lettre à...
Eh bien, il a pris la chose comme je souhaitais qu'il l'a pris.
Qu'il l'a pris. Oui.
Les premiers qui m'ont répondu, qui ont accusé réception, je leur ai envoyé. J'ai eu l'élégance de renvoyer. C'est un, Raymond Poulidor. Merci Marcel, tu es gentil de m'avoir mis dans une galerie aussi épatante de gens. Et de Caunes. Oui. Le petit de Caunes, Antoine, m'a dit, oui, vous me gratignez un peu, mais merci, bravo pour votre humour. Et il a chapeau.
Bon,
parce que
c'est intelligent.
Vrai.
Alors,
oui, parce que quand même, c'est vrai qu'il m'a une ou deux... Alors que, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, en gros, correspondant à mes débuts à l'Olympia, je commence à faire des émissions de télé en vedette, et à l'époque, la magnifique... comment s'appelait sa maman ?
Jacqueline Joubert
fait de moi la vedette de son émission Rendez-vous avec. J'étais heureux et je vais chez elle, me donne rendez-vous pour qu'on prépare l'émission et déboule dans un gamin turbulent qui a vu jouer aux petits chevaux, tout ça, elle a vu une conversation au téléphone qui n'en finissait pas. Et moi, je voulais bien qu'elle revienne un peu pour qu'on prépare mon émission. Et le gamin, chaque fois que j'ai rencontré Jacqueline, ou alors le papa, Georges Decaune, que j'ai bien connu, que j'aimais beaucoup, « Comment va Antoine ?» Et je voyais, sans l'avoir jamais revu, je voyais Antoine, j'avais des nouvelles d'Antoine grandissant, et prenant de la bouteille, etc. Et un jour, dans son émission, où il était très bien d'ailleurs, il me traîne dans la merde. Ah, j'étais malheureux. Alors donc, je lui dis, maintenant, t'as 60 ans, vieux con.
Oui, elle est assez...
Mais c'est un règlement de compte soft quand même.
Ou pas si soft que ça. Alors, donc, pas du tout dans le genre règlement de compte pour revenir aux grands artistes que vous avez côtoyés et bien connus. Il y a Brel. Et alors, dans la lettre à Brel, vous décrivez fort bien la métamorphose de Brel.
Ah.
Alors, qu'est-ce que c'est la métamorphose ?
Eh bien, je sais, vous savez...
Vous savez pas pourquoi, au fond, ça c'est...
Je sais un peu, c'est très vague, pourquoi tout d'un coup, des gens qui ont... Enfin, nous surprennent et se surprennent eux-mêmes en passant carrément, non plus à la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième vitesse, ils passent à surmultiplier. Alors, il y a souvent des explications. Est-ce qu'ils se révèlent à eux-mêmes? Ou est-ce que, et ça, je le crois aussi, il y a donc un don du ciel au départ. Je vais vous expliquer. Il y a une chose qu'on dit, il a de la présence. Moi, je sais, la présence, le charisme. Je ne savais pas, parce qu'on peut parler on peut penser à Jésus et à tant d'autres. À l'inverse, d'une façon abominable, à Hitler, quand même un petit mec comme ça avec sa moustache qui galvanise les foules. Il y a la situation qui s'y prête, tout ça. Pourquoi les gens ont-ils suivi Jésus? Il se passait bien quelque chose pour qu'on en parle encore 2014 ans plus tard. Bon, il y a des gens qui ont le charisme et qui ont la présence. Et ça, j'avais connaissance. Je croyais que la présence, c'était le contraire de l'absence. Bon, dans ma période avant l'Olympia, j'ai participé à un concours ouvert aux professionnels et aux semi-professionnels, à Cannes. Et il y avait un type magnifique, là, qui chantait très bien, un crooner qui s'appelait Guy Séverins, et tout le monde s'accordait à penser que c'était Guy Séverins qui allait gagner. Et il y avait un jury, mais c'est le public qui votait. Et là, j'ai gagné le Grand Prix. Ça m'a fait un petit pécule intéressant. Enfin, pas des milliards, mais ça m'a fait un peu... Et Guy Séverins n'a pas gagné. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et je ne faisais pas un numéro de le dire. Je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas Guy qui a gagné. Moi, j'aurais dû arriver deuxième, troisième. Et M. Schmitt, l'organisateur, m'a dit, je vais vous dire, mon petit, vous avez la présence. Ah bon, la présence? Moi, c'est curieux, j'avais 23, 24 ans, on ne m'avait jamais parlé de ça, de cette façon-là. Il m'a dit, je vais vous expliquer ce que c'est. Guy, votre copain Guy, là, au dixième rang, il commence à devenir flou. Il a le même éclairage que vous, le même micro que vous. Vous, je suis allé plusieurs fois au fond de la salle, je vous reçois 5 sur 5. Ah bon? Ben, c'est ça. Donc, on a quand même un peu ça. Certains de nous ont ça et ne le savent pas, ou ne savent pas à quel point ils l'ont, parce qu'on ne sait pas où se situer exactement dans l'échelle des valeurs, qu'est-ce que je vaux par rapport aux autres. Quand je suis arrivé à Paris, je voyais bien que j'avais du succès, mais enfin, qu'est-ce que je vaux par rapport aux cadors, parlons même pas de mon temps, de Georges Hulmer, des compagnons de la chanson, tout ça, je ne savais pas où je devais me situer. Et donc Brel, maintenant j'en viens à lui, il y a donc... Il devait avoir en lui... Moi, j'ai chanté chez lui, chez Patachou, au début des années 50. C'était bien, hein, c'était « Le diable, ça va, il peut pleuvoir sur les trottoirs des grands boulevards. Moi, j'ai mamie auprès de moi. » C'était bien, avec sa guitare, tout, tout, tout. C'était bien. Mais avec Brel, d'ailleurs, il était plein de bonnes intentions. Avec Brel, avec Brassens, on l'appelait l'abbé Brel. Nous qui l'avions baptisé l'abbé Brel. C'était toujours plein de bonnes intentions, toujours boy scout, très bien. Première chose, parce que ça, on en a été les témoins, il s'est libéré, voilà, c'était un fils de bourgeois, lui, nous on arrivait, Sim et autres, on arrivait du menu peuple, lui c'était un fils de bourgeois qui avait choisi cette voie tout à fait étrange, les cartonneries Brel, ils ont gagné, c'était des gens, des bons bourgeois bien établis, et c'est pas du tout, je cherche pas du tout à dire du mal des bourgeois bien établis de Bruxelles. Non, mais lui, voilà, pour quelle raison, ça j'en sais trop rien. et il était plus ou moins en rupture avec sa famille, il voulait pas qu'on... Voilà, il a voulu faire ce métier, et il venait gratter sa guitare, là où nous nous produisions les petits cabarets, des rives droite et gauche, surtout droite en ce qui me concerne. Gauche, c'était un peu plus intello. Bon. Et donc, le Brel, c'était bien, c'était bien. Et un beau jour, François Robert, son orchestrateur et ami, qui l'accompagnait pendant... quand il a... Enfin, ça, c'était devenu piano-guitare. C'était devenu piano-guitare. Et François Robert lui dit, écoute, moi, je peux te parler franchement. François Robert, qui était un orchestrateur qui aussi, pouvait aussi bien diriger une symphonie classique que faire de la variétoche, il était polyvalent. Et il dit à Jacques, écoute, il faut quand même que je te parle franchement. Tes harmonies, tu joues pas mal de la guitare, mais tu joues pas assez bien de la guitare pour que tes harmonies tournent toujours en rond. Alors de deux choses l'une, ou tu travailles ta guitare et tu élargis ton champ harmonique, ou alors tu poses ta guitare. Il a posé la guitare. Il a libéré ses mains, et comme le pithécanthrope dans la steppe de nos ancêtres lointains, découvre la main, puis l'outil, puis tout ça, lui, il a commencé à gesticuler, à postillonner, à s'abouger, à transpirer. Il ne se réfugiait plus, il ne se raccrochait plus à sa guitare. C'est l'un des éléments. Ensuite, mais là, je n'ai pas divulgué de choses que quelques-uns d'entre nous sachent. Il a eu des problèmes dans sa vie personnelle. Il a commencé à acquérir de plus en plus de punch, à tel point qu'un soir de première, le temps passant, un soir de première, ça ne s'est jamais vu dans les annales, à la deuxième chanson, Amsterdam, dans la deuxième chanson, le public, debout, à la deuxième chanson. Il était habité, il était devenu quelqu'un qui avait acquis... Voilà, un petit gars, si vous voulez, qui est Battling Joe, qui fait les championnats de Franche-Comté, tout d'un coup, devient champion du monde. Ben, c'était un peu ce qui est arrivé. Est-ce que ma réponse vous satisfait, maître?
Elle me satisfait pleinement. et je voudrais vous poser...
Excusez-moi.
Oui.
Je voulais donc dire à ce sujet qu'il peut se faire qu'on ait en soi des choses dont on n'a pas encore trop évalué, c'est-à-dire le charisme dont vous parlez. On ne sait pas trop, je répète, où on en est. Ce sont souvent des événements extérieurs qui les extirpent de vous.
Qui provoquent l'accouchement.
Voilà, la maïeutique.
De Socrate. Et un mot quand même sur. Bon, on pourrait parler de Nougaro, on peut parler. Il faut lire le livre, tout simplement.
Oui, il faut lire. Il faut l'acheter.
On pourrait parler de Moustaki, on pourrait parler.
Il faut l'acheter, 19 euros. C'est un peu. Oui. Il faut donc l'acheter, puis après on fait ce qu'on veut.
Juste un mot quand même sur un Santerre. Alors, plus proche de nous. Beaucoup plus proche de nous que Maurice Chevalier, et Montand et les autres. Et Mireille, il y a une jolie Mireille. Lettre à Mireille. Moi, j'ai une passion éperdue pour Mireille. Vous connaissez la... Attendez, vous jouez au bridge.
Oui.
Ah, ça me sidère que vous jouiez au bridge.
Et pourquoi pas, monsieur?
Parce que c'est les vieilles dames un peu bourgeoises avec des cheveux bleutés qui jouent au bridge.
Non, celles avec qui jouaient, elles avaient les cheveux roses, monsieur. À cause de Mitterrand. Alors donc.
Il y a une très belle chanson, vous la connaissez là, bien sûr.
Toute.
La partie de bridge.
Oui, avec Mireille Jean Sablon.
Mireille et Jean Sablon. Venez. Bon, on chante pas la partie de bridge. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, il y a un chanteur beaucoup plus proche de nous que Mireille, bon, bien qu'elle soit très proche, et Montand et les autres, c'est Souchon. Alors, vous avez une grande admiration pour Souchon. Et il vous a donné une chanson ou deux chansons.
J'aime beaucoup Souchon parce que, moi, j'écris les trois quarts des chansons que je chante, mais je suis infoutu d'écrire un refrain populaire. Je ne sais pas faire ça. C'est bien dommage de travailler. Chaque jour pour gagner sa vie, il faut se lever. Mais pour le reste, heureusement. Merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. J'ai dit à Thomas Riva, dites donc les mecs, vous n'êtes pas foulés pour les paroles. Enfin, je vais la chanter parce que ça tourne bien, la musique est sympa. Tout. Eh bien, ça, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas faire.
Oui, ça fait un peu style clou-clou.
Ah, ça fait style clou-clou, oui.
Je ne sais pas écrire une chanson populaire. Bon, très bien, je ne m'en porte pas trop mal puisque j'ai des auteurs à l'époque qui ont alimenté mon répertoire et qui ont fait de moi ce qu'il est convenu d'appeler une vedette populaire. Enfin bon, et Souchon, donc, dans ce monde que je connais bien, puisque je suis auteur, il a créé un style, quand même. Il a créé un style, parce que faire des rimes riches ou pas, avec des idées originales, ça court pas les rues, mais enfin, il y a pas mal de bons auteurs que le public ne connaît pas. Vidalin, Pierre Delanoë, et on connaît un peu parce qu'il a écrit des bouquins, tout ça. Mais Maurice Vidalin, Jean Dréja, qui était célèbre à 19 ans, avec une chanson qui a fait danser la France entière, qui s'appelait Ah, le petit vin blanc, qui a écrit La chansonnette pour mon temps, qui a écrit Bleu, blanc, blond pour moi. Bon, bref. Le public ne le connaît pas et c'est grand dommage. C'est un peu comme Paul Jean Toulet. Ce sont des gens qui ont du talent. Eh bien, parmi tous ces gens talentueux, Cabrel écrit d'une façon un peu, ben, comme la plupart d'entre nous, avec une modernité qui est celle de son âge. Mais Souchon a créé un style. D'ailleurs, la chanson qu'il a écrite pour moi, c'est ça s'appelle Viennois. C'est à la gloire de la valse viennoise. Pour que tu t'en ailles pas dans disco d'en bas, je vais te faire valser chez moi. Viennois, Viennois, c'est comme tiens, du blues autrichien. Viennois, c'est du blues autrichien, c'est magnifique. Ça, c'est Souchon.
Bien. Alors,
puis-je dire la lettre que je préfère?
Ah ben oui, voilà. Ça, c'est
la lettre que je préfère.
Je vous ai empêché de dire ça tout à l'heure.
Voilà, la lettre que je préfère, mais... Je tiens à la placer, celle-là.
Ah ben oui, oui.
Parce qu'après, c'est répété à ma femme.
Ah, Marlène. Lettre à Marlène.
Lettre à toutes les femmes que j'ai aimées.
Ah.
La page est blanche. Et à la fin, je mets « Merci Marlène, ma chérie, de m'avoir rendu amnésique.
» Il y a quelques lettres qui sont la lettre à François Hollande... on ne peut pas dire qu'elle soit bavarde, justement, n'est-ce pas ?
Oui, oh, bah c'est une blague.
Oui.
J'ai voté pour lui, je peux donc en parler à l'aise. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai fait de mieux, mais j'ai voté pour lui. Oh, bah, je fais ce que je veux, monsieur. Alors, je mets... pareil, une page blanche, je mets premièrement, deuxièmement, troisièmement, et je mets PS en grosses lettres. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Celle qui est très belle, très émouvante, c'est la lettre à Mitterrand. Elle est absolument superbe, ça.
Oui.
C'est vraiment des lettres très émouvantes.
Mais parce que j'ai eu le triste privilège de pouvoir aller saluer sa dépouille. Voilà.
Bon, je pense que les gens ont terriblement envie que vous signiez,
L'écrivain
signe ses livres.
Bon, répétez ça.
Que l'écrivain signe ses livres.
Monsieur le professeur, merci beaucoup.